Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida. Cela ne va pas empêcher Franck Ferrand, de verser dans le genre coquin. J'en suis déjà tout émoustillée aujourd'hui.
bonjour Fatima, bonjour à tous. On n'allait tout de même pas se laisser démoraliser. Le week-end dernier, je me suis plongé avec joie dans le dernier livre de Michel de Decker qui s'intitule « 12 corsets qui ont changé l'histoire ». Entre soie, dentelle, baleine et lacets, les 12 corsets en question ont donné la taille fine à 12 grandes amoureuses. Nous en parlerons tout à l'heure avec l'auteur.
Et parmi ces 12 figures de femmes, vous avez choisi celle dont le nom est devenu synonyme de courtisane, Ninon de l'Enclos.
Et oui, Ninon n'est pas seulement le prénom de l'amour, c'est celui de la liberté en amour et en plein XVIIe siècle, d'une certaine égalité des sexes très en avance sur son temps, vous allez le voir. C'est la première fois que je parle à la radio de la merveilleuse Ninon. Je suis ravi de lui consacrer ce moment.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Grande question, Ninon était-elle belle? Ben, peut-être pas vraiment. Certes, les contemporains vantent sa peau blanche et douce, l'ovale de son visage, le galbe de ses jambes, une gorge accueillante, ce qui veut dire une poitrine agréable, et puis cette taille si bien prise, ce à quoi devaient aider les corsets chers à Michel de Decker. Seulement, bien mieux qu'un physique parfait, Ninon possédait la grâce. Cette grâce dont elle disait que sans elle, le plus beau corps du monde était comme un hameçon sans appât. Ninon, et c'est peut-être ce qui la distingue par exemple de Marion Delorme, la grande courtisane qui dans le XVIIe siècle vient juste avant elle. Ninon, c'est le charme incarné. Elle attire les hommes aussi par son intelligence. Elle est vive, audacieuse, pétillante, cultivée. Elle est drôle, sûre d'elle, mais gentille, douce, sans mièvrerie. Elle est souvent joyeuse, mais elle donne parfois dans le rêve et même dans la mélancolie. Elle est surtout tellement libre dans un siècle où les femmes le sont si peu. Oui, si Ninon de l'Enclos a laissé un nom parmi les amoureuses célèbres, elle le doit sans doute moins à sa beauté, à ses banal qu'à son esprit qui lui ne l'était pas du tout. Je vous ai dit qu'elle attirait les hommes, il faut vous dire quand même qu'elle vit entourée d'hommes, parmi lesquels il est possible d'établir une hiérarchie. Il y a les messieurs très établis qui entretiennent la dame, on les appelle les payeurs. À cela, elle donne peu, très peu même. Il y a ensuite les martyrs, entendez la cohorte des soupirants sans espoir, ceux qui n'obtiendront rien du tout. Et puis, de temps en temps, assez souvent, presque toujours, il y a l'élu du moment, même si le moment peut être court. Ça va de quelques heures à quelques semaines, rarement davantage. Chez Ninon, c'est une règle, ne surtout pas s'attacher trop longtemps. Elle a compris très tôt que ce serait, dans une société soumise aux volontés de l'agent masculine, que ce serait le seul gage de cette liberté qu'elle chérit. On la quittait rarement, mais elle quittait fort vite, écrit Voltaire, qui encore enfant l'a rencontrée sur le tard. Il ajoute, elle restait toujours l'amie de ses anciens amants, elle regardait l'amour comme un plaisir qui n'engageait à aucun devoir, et l'amitié comme une chose sacrée. Saint-Simon, qui l'a lui-même fort peu et fort tard connu, disait « Chez elle, jamais de jeu, ni de rire trop élevé, encore moins de disputes, on n'y parlait ni religion ni politique, seulement de choses légères, agréables, de choses de l'esprit. » Et c'est un fait que les plus grands seigneurs accourent chez Ninon, dont ils quémandent littéralement les grâces. On raconte la crise de dépit du futur duc de Vendôme, un enfant naturel d'Henri IV, qui, furieux d'avoir été éconduit, avait laissé sur la coiffeuse de Ninon, à l'époque on disait sur sa toilette, le billet suivant. Indigne de mes feux, indigne de mes larmes, je renonce sans peine à tes faibles appas, mon amour te prêtait des charmes, ingrate que tu n'avais pas. Alors, ça ne se laisse pas démonter, Ninon. Elle retourne le billet et au dos, elle écrit « Insensible à tes feux, insensible à tes larmes, je te vois renoncer à mes faibles appas. Mais si l'amour prête des charmes, pourquoi n'en empruntais-tu pas ?» Ninon, il faut vous le dire, a réponse à tout. Mais il ne faudrait pas croire que tout cède sans peine devant ses grâces. Le poète Talmant des Réaux, qui a si bien décrit ses contemporains, vous savez, dans ses historiettes, Talmant raconte l'anecdote suivante. Un jour, au cours La Reine, Ninon remarque un superbe cavalier blond qui se révèle être le comte de Navailles. Elle jette sur lui son dévolu, elle lui fait passer un billet pour l'inviter à souper le soir même. Vous voyez déjà l'audace de la démarche, hein, quand même, on est au XVIIe siècle. C'est une démarche que... seule une courtisane, on disait une femme perdue de réputation, peut se permettre. Le jeune comte ne laisse pas passer sa chance, il se présente comme prévu le soir même chez Ninon, il soupe avec elle, la conversation est spirituelle, le repas bien arrosé. Puis Ninon conduit Navailles jusqu'à son lit et lui propose de l'attendre un moment. Il se trouve qu'elle est d'une propreté scrupuleuse et qu'elle passe toujours beaucoup de temps à sa toilette. Un peu trop de temps en l'occurrence, car lorsqu'elle revient près du lit, elle trouve le beau blond déshabillé, allongé, mais endormi. Et même le mufle ronfle. En rouvrant les yeux le lendemain matin, il découvre au pied du lit un jeune homme à la mine menaçante, la main sur l'épée. Un rival, pense Navailles. Il se dresse sur le lit. « Ah, monsieur, je suis homme d'honneur, je suis prêt à vous rendre raison !» Il était mal réveillé, il s'est pas rendu compte qu'en fait il s'agit de Ninon, qui pour rire a revêtu les habits du comte. La conclusion, affirme Talmant, aurait dû être mirifique, mais les émotions ne réussissaient pas plus à Navailles que les bons vins, car il ne lui fit qu'un pauvre coup. Et Ninon de se jurer qu'elle préférera désormais les bruns aux blonds.
Les Folies de Cardenio, Menuet composé par Michel Richard de Lalande. Allez rester avec nous au cœur de l'histoire. Reviens dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est une ambiance légère et coquine aujourd'hui, on peut le dire, puisque Franck Ferrand, vous avez décidé de nous conter la vie de la courtisane Ninon de L'Enclos.
Avant de vous parler de corsets et d'histoire d'alcool, vous voyez un peu. Alors je vous ai dit tout à l'heure que Ninon de L'Enclos tâchait d'être fidèle à l'élu du moment. Le principe, évidemment, a connu quelques exceptions. Et c'est par exemple l'anecdote célèbre du billet de La Châtre. La Châtre, c'était pour Ninon un amant jaloux. Si jaloux qu'un jour où il était obligé de s'absenter de Paris, il lui a fait signer un engagement écrit de lui rester fidèle en son absence. On appelait ça un billet de fidélité. Alors La Châtre s'en va donc, à peu près rassérénée, et bien entendu, il n'a pas plutôt tourné le dos que Ninon, qui n'aime que sa liberté, se jette dans les bras d'un autre. Et tandis qu'elle fait l'amour plus avidement que jamais, elle éclate soudain de rire et lance « Ah, le bon billet qu'a La Châtre !» Évidemment, le nouvel élu ne comprend pas l'allusion, alors il se la fait expliquer et puis il va raconter ça autour de lui, ce qui fait que le mot fait très vite le tour de Paris et va devenir une expression courante. Fait que pour évoquer une promesse non tenue, pendant très longtemps, on dira « le bon billet qu'a La Châtre !» On devrait remettre l'expression à la mode,
oui.
Je trouve.
Alors
on va essayer de s'y coller. Je ne voudrais pas, pour autant, vous laisser sur l'impression que Ninon de L'Enclos aura toute sa vie été l'inconstance même. Figurez-vous tout de même que finalement, la libertine a fini par tomber vraiment amoureuse. Elle a 32 ans quand elle s'éprend violemment d'un homme de son âge, Louis de Mornay, qui est capitaine lieutenant des chevaux légers et qu'on appelle à la cour que par son titre, le marquis de Villarceau. Lui aussi, de son côté, a toujours été un don Juan. Talmant écrit qu'il chassait un gibier qui n'est ni de poils ni de plumes, dit-il. Et voilà que ces deux libertins vont renoncer à leur vie facile de part et d'autre pour se consacrer exclusivement l'un à l'autre. Louis emmène Ninon hors de Paris, d'abord au château de Ruel, près de Meulan, et puis au cœur de son fief même, dans le Vexin français, au manoir de Villarceau. La courtisane, si choyée, si fière de son confort, va accepter d'aller vivre comme ça à la campagne, loin de tout, dans une tour qui jadis a même servi de prison. C'est vraiment l'amour fou, et qui dure, et qui paraît ne devoir pas tarir. Les amoureux finissent par rentrer à Paris. Ils habitent là des hôtels voisins, ce qui leur permet de s'apercevoir à toute heure par les fenêtres. Tout ça est très romantique avant l'heure. Et un soir, Louis aperçoit tout de même de la lumière dans une chambre inoccupée de l'hôtel de Ninon. Alors là, il se croit trompé. Il surgit chez elle. Et elle, de son côté, plus fière que jamais, refuse de se justifier. Elle refuse d'aller ouvrir la chambre en question. Villarceau rentre chez lui, malade de jalousie, malade au sens propre, il va devoir s'aliter. Et c'est pour lui prouver son amour que Ninon, bonne fille quand même, fait ce geste insensé de couper sa belle chevelure et de la lui envoyer. Ce sera l'origine de la coiffure courte des femmes de cette époque qu'on appelle la coiffure à la Ninon. Cet amour fou néanmoins ne sera pas éternel. Après 3 ans, Ninon et Louis vont constater que la passion s'amenuise, que l'amour leur échappe et ils décident de se rendre leur liberté mutuelle. Fait unique dans la vie de Ninon, elle ne gardera pas Villarceau comme ami. Si vous voulez, pour elle, il fallait qu'il reste à jamais l'amant.
Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et c'est l'heure de passer à la partie magazine. Et pour en savoir plus sur la courtisane Ninon de L'Enclos, Franck, vous recevez aujourd'hui Michel de Decker, historien et surtout auteur de 12 corsets qui ont changé l'histoire chez Pygmalion.
Oui, l'avantage avec Michel de Decker, c'est qu'on n'a pas à le présenter. Nos auditeurs le connaissent bien. Merci Michel d'être des nôtres.
Merci.
C'est très amusant d'avoir choisi cet objet, ce corset, pour aborder, pour entrer, pour s'immiscer dans l'alcôve de ces 12 grandes courtisanes. Alors, avant d'entrer, évidemment, à notre tour dans cette intimité-là, j'aimerais qu'on revienne un peu sur Ninon. Et peut-être, parce que je ne l'ai pas fait, moi je suis vraiment allé, j'ai ressorti la mythologie Ninon, si l'on peut dire. Revenir sur ses origines, comment est-ce qu'on devient courtisane au XVIIe siècle? Qu'est-ce qui lui est arrivé à
Alors,
cette Ninon?
Ninon, quand Ninon vient, Ninon naît, quand Ninon naît, si je puis dire.
C'est bien dit. Bien,
elle a une maman qui est un peu bigote et un papa qui, lui, est particulièrement libertin. Alors, est-ce qu'elle ira au couvent ou est-ce qu'elle suivra la pente de papa. Elle suit papa, qui est un fin joueur de luth, un chanteur, un osseur,
elle etc. Elle-même le sera du reste.
Il lui apprend à jouer du luth, il lui fait découvrir Montaigne, Rabelais, enfin, elle s'ouvre de façon absolument merveilleuse et elle décide d'abandonner la vie conventuelle à tout jamais, quoique elle fera de nombreux séjours au couvent, contrainte et forcée, on le sait bien sûr. Et puis, c'est ainsi que elle va rencontrer celle qui sera son professeur, dont vous avez parlé tout à l'heure,
oui,
qui est Marion Delorme.
Voilà.
Mais Marion Delorme, c'est pas la même chose, parce que, j'allais dire, c'est plus peut-être une putain qu'une courtisane.
Mmh. Alors Marion Delorme qui avait notamment enflammé le jeune Saint-Marc, favori de Louis XIII.
Oui, bah oui, ça n'avait pas plu à Louis XIII d'ailleurs, cette affaire-là, parce que Louis XIII était très jaloux. Et donc, la différence entre Marion, mais qui lui apprend quand même un peu les rudiments du métier, c'est que c'est une intellectuelle, Ninon. Elle lit énormément, elle écrit admirablement.
Elle tient salon, je crois que le mot n'est pas trop fort.
Elle tient salon.
Une époque où les précieuses sont un peu sur
oui, elle tient salon, tout le monde vient. Ça n'est pas comment dirais-je, on a parlé récemment de la putain de la République, mais c'est pas la putain de la monarchie, pas du tout. C'est vraiment une dame, une courtisane admirable. On mendie pour venir chez elle, pour la voir, pour l'écouter, et plus si affinité, naturellement. Tous les académiciens sont là, puisque c'est l'époque où l'Académie française est créée. Ils viennent tous. Il n'y a pas un académicien qui ne vient pas participer à une réunion de Ninon.
Puisque vous parlez de l'Académie, le fondateur de l'Académie, le cardinal de Richelieu, aurait peut-être, dit-on, eu ses faveurs. Alors on dit qu'il aurait pu être, elle aurait pu être, elle, sa dernière maîtresse et lui, son premier amant.
Absolument. Elle était toute jeunette. Elle avait 18 ans et il est peut-être, bon, c'est Voltaire, mais Voltaire,
c'est
de
Voltaire,
temps en temps,
hein, oui, quand même,
romance un petit peu l'histoire, mais cite le fait. Et Richelieu lui aurait même promis une pension gigantesque pour le restant de ses jours. Si les héritiers de Richelieu ont dû assumer la pension, ça leur a coûté très cher,
oui,
puisqu'elle a vécu jusqu'à 82
mais
ans tout de même.
Et à 70 ans, on vient encore la voir, et à 70 ans, elle a encore des aventures amoureuses.
Elle a encore un amant à 70 ans. Alors, elle avait un jeune soupirant, l'abbé de Châteauneuf, qui voulait absolument passer...
Décidément, des abbés et des cardinaux dans les alcôves,
il y a un certain nombre. Cet abbé de Châteauneuf voulait absolument passer une douce nuit d'amour avec Ninon, et elle le faisait lanterner, elle disait attendez un petit peu, elle le fait attendre 8 jours, et puis enfin voilà, et le lendemain matin en se réveillant, il lui dit mais enfin pourquoi m'avez-vous fait attendre aussi longtemps, diable de château, eh bien voyez-vous, c'est que j'ai voulu fêter mon 70e anniversaire dans vos bras, il y a eu un froid sans doute.
Parce qu'on dit qu'elle ne flétrissait pas en fait, elle restait très jeune, c'est
une
l'amour,
comme Diane de Poitiers, c'est une beauté qui semblait éternelle.
Mais avec une énorme différence,
c'est qu'elle ne mangeait pas de poudre d'or.
D'une part, et Diane de Poitiers n'était, semble-t-il, pas une très grande amoureuse.
Non, Diane
alors,
de Poitiers
que,
froid,
alors que Ninon adorait ça.
Oui, tout à fait. Mais elle adorait ça. Et on a parlé tout à l'heure de Villarceau. C'est vraiment Villarceau qui lui a révélé l'amour sensuel, l'amour physique. Villarceau avec lequel elle aura un fils, d'ailleurs, qu'elle élèvera, qu'elle pensionnera. l'emmènera et le couchera sur son testament.
Le rôle qu'elle donne à la femme ou qu'elle prétend lui donner est très en avance sur son temps.
Tout à fait. Alors que le corset est un instrument qui est là pour étrangler, pour enserrer les femmes, eh bien ce corset permet la libération de la femme. C'est véritablement, je crois, la première femme de l'histoire à prôner le féminisme et la libération.
Vous parlez du corset, évidemment, c'est l'objet fétiche, je crois que le mot n'est pas trop fort, qui sert de point commun, qui sert de fil conducteur, de lacet conducteur.
Pour les dessous de l'histoire.
C'est ça, décidément. On est dans le jeu de mots, là, aujourd'hui. Ces corsets, vous nous les faites remonter très haut, puisque vous nous parlez carrément du corset de Cléopâtre.
Oui, Cléopâtre portait un joli corset. Elle avait un grand nez, une jolie poitrine qu'elle mettait en valeur avec un corset qui était fait avec des bandelettes tissées, pas façon momie encore, il ne faut pas exagérer, mais qui portait un très joli nom d'ailleurs. C'était le nom d'une maladie, on appelait ça le zona. Enfin, Jules César est tombé malade d'amour, on le sait, pour le zona de Cléopâtre.
Et Marc-Antoine plus encore.
Et par la suite, évidemment, les corsets vont évoluer jusqu'au dernier, qui sera beaucoup plus souple. À partir du moment où on aura réussi ce tour de force en chimie de pouvoir intégrer le caoutchouc dans le tissu, ce sera plus agréable que les baleines qui étranglaient, qui étouffaient.
Moi, quand j'entends parler de corset, je ne peux m'empêcher de songer au texte de Colette, extrêmement drôle du reste, où elle explique que toutes ces femmes, et c'est d'ailleurs dans ces Colette qui parle à Cocteau, mais le texte est de Cocteau, où il raconte que toutes ces femmes étaient, jusque dans une période, jusqu'à la Première Guerre mondiale, en fait, quasiment armées, comme si elles étaient équipées d'une armure, d'un caparaçon. C'est assez effrayant quand même, ce corset. C'est vrai que c'est un objet érotique d'un côté, mais en même temps, c'est aussi
un objet
chose.
De souffrance, c'est un instrument de torture, aussi, torture manifestement. On sait que Marie-Antoinette portait le corset. Sa maman, Marie-Thérèse, lui a fait porter le corset très jeune parce que on avait diagnostiqué un affaissement d'une épaule. Elle lui a dit « Vous allez porter le corset ». Et Marie-Antoinette dormira en corset une grande partie de sa vie. Bon, il est vrai que Louis XVI, pendant 7 ans, n'y touchait pas, donc ça ne gênait personne.
C'est vrai que Louis XVI, peut-être, a été intimidé lui aussi. C'est étrange l'appareil qu'on avait mis autour du corps de la femme. Il y avait le corset, bien entendu, mais il y a tout le reste, tous ces jupons, tous ces systèmes. Système de jupe, de sous-jupe, de
enfin bon, c'est surtout à l'époque de Marie-Antoinette.
Et alors, surtout à cette époque, ça prend des proportions incroyables.
Oui, alors c'est pour ça que quand on dit que Fersen a pu aller la lutiner derrière un buisson pendant une fête, on imagine qu'il fallait 3 heures pour démonter le tout. Donc, il est hors de question que ça puisse produire.
Le chapitre que vous consacrez à Marie-Antoinette s'appelle « Le corset de l'Autrichienne ». Alors, je vais quasiment comme une devinette donner le titre d'un certain nombre des chapitres sur lesquels nous allons revenir avec vous, bien sûr. Le corset de la Grande Gaure, tiens donc, oui. Le corset de la Ribaude. Alors celui de la Tourterelle, nous savons de quoi il s'agit, puisque c'est Ninon de l'Enclos. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait la Tourterelle ?
Oui, pourquoi la Tourterelle ? Parce que c'est elle qui disait « Plaignons les tourterelles qui ne baisent qu'au printemps ».
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Voulez-vous danser marquise ? Voulez-vous danser le menuet ? Vous serez vite conquise. Donnez-moi la main, s'il vous plaît. Oh, oh, oh. Entrons en danse, quelle cadence. Le menuet, c'est la polka du roi pendant que le...
Voulez-vous danser, Franck Ferrand ? La polka du roi de Charles Trenet. Aujourd'hui, dentelle, satin et amour sont à l'honneur de Cœur de l'Histoire et vous recevez Michel Dedecker qui vient de sortir chez Pygmalion 12 corsets qui ont changé l'histoire.
Pygmalion qui est à l'honneur puisque hier soir le prix Hugues Capet a été remis à une biographie de Philippe V par Suzanne Varga qui est parue justement chez Pygmalion. Alors Michel Dedecker, qui est cette grande gaure dont vous nous parlez et qui n'a finalement pas laissé une très grande trace dans l'histoire? J'ai cru comprendre qu'il lui fallait un corset de taille à elle.
Oui, gore, c'est la déformation en picard qui veut dire la cochonne, tout simplement.
C'est
Isabeau de Bavière. C'est Isabeau de Bavière qui a ouvert son corset, en veux-tu, en voilà.
Alors Isabeau de Bavière, l'épouse bavaroise du roi Charles VI,
absolument,
qui était complètement fou, le
qui
pauvre.
Qui lui, oui, croupissait dans sa folie, avec une jolie petite maîtresse qu'on lui avait apportée, d'ailleurs. Ondinette de Champdivert. On avait inventé le jeu de cartes pour qu'il passe son temps, d'ailleurs, en s'amusant. Et pendant ce temps-là, eh bien, Isabeau la Grande Gaure ouvrait son corset, qui avec le beau-frère, qui avec le duc d'Orléans.
Le beau-frère, c'est Louis d'Orléans.
Absolument.
Hein,
voilà. Donc, elle a semé une panique absolument infâme dans la vie politique en pleine guerre de Cent Ans.
Elle vivait dans son hôtel Saint-Paul, donc, oui. Qui est à l'emplacement de l'actuel quartier du Marais à Paris, et tout près de la Bastille, disons.
Là où ça a failli s'enflammer.
Oui, voilà, le fameux bal des Ardents.
Tout à fait, oui.
Et dans cet hôtel, on dit qu'elle menait mettent une vie de plaisir au pluriel. Or, depuis quelques années, un certain nombre d'historiens nous disent « Attention, ne nous trompons pas, les plaisirs dont on parle ne sont pas une luxure ni une débauche. Elle était plutôt une poétesse, elle aimait les oiseaux, elle cultivait des variétés de roses. » Enfin, on essaie de réhabiliter votre grande gorge.
Isabeau de Bavière, oui, mais je crois qu'on va avoir beaucoup de mal parce que si elle écoutait le chant des oiseaux dans la journée, je crois que ses nuits étaient assez chaudes et elle était vraiment dévergondée, il faut le reconnaître.
C'est très intéressant ce que vous faites parce que finalement, vous vous promenez dans une petite histoire, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, qui est une petite histoire d'alcôve qui a toujours fasciné les Français.
Et qui continuera, bien sûr.
On pense au comte Fleury, par exemple, hein, qui, il y a longtemps maintenant, il y a plus d'un siècle et demi, écrivait des...
Mémorialistes merveilleux, oui.
Voilà, et puis on pense, bien sûr, à notre Gosselin le Nôtre. Vous rendez-vous même hommage à André Castelot à la fin du livre,
ah,
et
oui,
j'ai trouvé ça très bien.
André, avec qui j'ai travaillé pendant 35 ans, bien sûr, et qui m'a laissé son bureau. J'ai écrit mon ouvrage sur le bureau, le meuble que m'a laissé André. André a été un de ceux qui ont redonné le goût avec Alain, avec son complice Alain Decaux, le goût au français, le goût de l'histoire, qui ont ressuscité l'histoire.
Il est resté vraiment jusqu'au bout très sensible à tout ce qui se faisait dans ce domaine, et quand nous avons commencé cette émission même, en 2003, sur Europe 1, je me rappelle que j'allais le voir une fois par semaine chez lui à Avenue Foch, et qu'il suivait tout ça de très près, il me donnait des conseils. C'était vraiment, c'est bien que vous vous inscriviez, j'ai
C'était
envie de dire,
un
dans
an avant qu'il ne nous quitte.
Exactement.
Oui, absolument. Oui.
Alors, qui est la Ribaud dont vous nous vantez le corset? Alors là, corset très 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 mince.
Très mince, une des plus jolies femmes de la chrétienté, c'est la belle Agnès Sorel, c'est la maîtresse de Charles VII. Il suffit de voir le tableau peint par le grand peintre Fouquet d'Agnès Sorel en Vierge à l'Enfant, entr'ouvrant son corset pour donner le sein à Jésus-Christ. On imagine le bonheur de Jésus-Christ en voyant ce sein sortir, jaillir comme un obus. C'était une femme d'une beauté admirable et qui, avec son corset qu'elle savait habilement ouvrir pour Charles VII, qui était l'indolent au début de sa carrière avant de devenir Charles VII le victorieux, grâce à elle en partie, parce qu'elle l'a stimulé, elle lui a dit « il faut libérer la France, et notamment la Normandie, quand il ne restait plus que la Normandie, de l'influence anglaise ».
On pense qu'elle a été assassinée, on en est presque sûr maintenant.
Je crois que non. Je pense, moi, que c'est une erreur de posologie de son médecin. On sait qu'elle est morte d'une
empoisonnée, ça,
overdose
c'est sûr,
de
oui.
mercure. Mais probablement souffrait-elle trop, puisqu'elle était dans les douleurs de son quatrième accouchement. Et puis ensuite, elle souffrait d'élever une maladie intestinale, puisqu'on prenait du mercure pour chasser les vermines, les oxures. Et je crois qu'elle a dû se tromper de posologie.
On vivait à une époque, donc là on est sous le règne de Charles VII, hein, très peu de temps après Jeanne d'Arc, pour situer, pour nos plus jeunes auditeurs, on est à une époque où le corset se porte extrêmement serré, on aime la taille de guêpe, et où la poitrine est découverte, carrément.
La poitrine jaillit hors du corset, absolument. Quelle belle époque.
On admire les tétins, comme on dit
à
l'époque.
Oui, tout à fait.
Alors cette Agnès Sorel a été aussi l'amie d'un homme qui a joué un rôle essentiel dans la modernisation de la façon de s'habiller en France, puisque c'était un très grand négociant et qu'il a vendu beaucoup d'étoffes et des mètres et des kilomètres
Jacques
de fourrure.
Coeur, je pense.
C'est Jacques Coeur.
Bien
ouais.
sûr, oui. Oui, elle était très... C'est pour ça que je ne vois pas qui aurait pu chercher à lui nuire et à l'assassiner. Louis XI, le futur Louis XI s'en moquait éperdument. Il s'entendait bien avec elle, d'ailleurs. Et puis, Jacques Coeur était très proche d'Agnès Sorel. Donc, je suis convaincu qu'il n'y a pas eu de tentative d'assassinat. Mais ce qui est amusant tout de même, c'est que quand on a fait ces découvertes dans la sépulture à Loches de la belle Agnès, on a emmené ses restes à Lille, dans un laboratoire, pour précisément.
Oui.
Et c'est donc la seule maîtresse du XVIe siècle qui a pu prendre le TGV, ce qui est quand même particulièrement étonnant.
Un certain nombre de grandes dames, plus ou moins amoureuses, nous attendent dans des périodes beaucoup plus récentes. Nous nous retrouvons dans un instant, Michel de Decker. Et je rappelle à nos auditeurs qu'ils ont encore quelques minutes pour jouer à la hotte de Noël.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
D'Éric Satie, interprété par Maddy Mesplé. Non, ce n'est pas une proposition indécente que je vous fais, Franck Ferrand. contraire, nous parlons depuis le début de cette émission
nous des tout corsetés voilà. Finalement dans cette...
Et surtout des corsets qui ont changé l'histoire, ont très marqué l'histoire.
Et des corsets, c'est vrai aussi, disons-le, un peu instrument de torture. Hein. C'est très beau quand on va sur un plateau de film, par exemple, de costumes en époque, c'est magnifique. On n'en croit pas ses yeux de voir ces tailles très fines, mais pour les comédiennes, c'est en même temps une torture.
Très douloureux, certainement, oui. Oui, je dis, on l'a vu, Marie-Antoinette souffrait terriblement du port du corset.
On a ces images de la fin du 19e siècle où on voit des messieurs qui tirent sur les lacets, comme ça, oui. En appuyant sur la colonne vertébrale de la dame.
Ah, oui, c'est
terrible.
Presque. Tu vas parler, il faut avouer.
On a aussi ces images magnifiques de l'impératrice Eugénie, des Français, Eugénie Montijo. Alors là, vous parlez du corset de l'Espagnol, dont Napoléon III a été très amoureux. Avant de la tromper, la pauvre, énormément.
Oui, au bout de 6 mois de mariage. Oui.
Mais elle avait alors, elle, ce qu'on appelle une taille de guêpe.
Ah, vraiment une taille de guêpe, oui. On faisait le tour de la taille avec les deux mains, mais elle se sanglait comme ça n'est pas permis. Mais ce qui lui allait très bien d'ailleurs, parce qu'elle était rigide dans son caractère.
Oui, bien sûr, j'ai altière comme
donc,
ça.
Donc altière, fière, rigide, froide, ce qui ne plaisait pas naturellement à Napoléon III. Mathilde, la cousine de Napoléon III, disait d'ailleurs qu'elle avait la taille fine, mais elle n'avait pas plus de cœur que de cul. Bon, c'est l'expression utilisée par Mathilde. Et c'est vrai que c'est une statue, on la voit, elle est figée sur les tableaux de Winterhalter, elle est très, très raide.
Alors on a commencé avec une courtisane, je ne voudrais pas finir avec une impératrice, on va reprendre une courtisane. C'est cette Madame Stenel, personnage incroyable, dans les bras de laquelle est mort le président Félix Faure.
Oui,
enfin, pas tout à fait du reste.
Et c'est elle qui m'a un petit peu, j'allais dire, ouvert la porte des corsets. Parce que en travaillant à Drouot, j'ai retrouvé trace de la vente du corset de Madame Stenel à Drouot dans les années 1921-23.
Qui était-elle, cette femme étonnante ?
Alors c'était la femme d'un peintre, peintre de tableau d'histoire qui était invendable, sauf à partir du moment où elle devient la maîtresse du président, il y a des commandes de l'État en quantité, évidemment. Et on sait que le président...
On est là juste avant 1900, hein, pour situer les choses.
On est en 1899, exactement. Le président a un AVC dans les bras de la belle Meg Stenel, on lui dit vite, quittez le palais de l'Élysée, allez-vous-en. Elle n'a pas le temps de remettre sur son corset qu'il fallait sangler, puisqu'elle était quand même plus que déshabillée à côté du président, et ce corset resté là, et le secrétaire de l'Élysée, a dû certainement s'en débarrasser, et on l'a retrouvé en vente à Drouot.
Et donc, oui, c'est devenu presque un objet maintenant, presque un objet d'histoire.
Ah, absolument. Oui,
sinon, c'est... une pièce à conviction.
Une pièce. Et le dernier corset...
Le corset d'Alouette.
Le dernier corset que j'ai caressé, si je puis dire, c'est un corset qui était bien serré, bien fermé, puisque c'est celui de Marthe Richard qui, elle, on le sait, a réussi ce tour de force de fermer des maisons qui étaient déjà fermées. Elle ferme les maisons closes, qui est quand même admirable.
Oui. C'est elle juste après la guerre, 1946. Hein.
Absolument. Et pourquoi porte-t-elle le corset, Marthe Richard ? Parce que elle commence sa carrière comme péripatéticienne. Elle, c'est une vraie putain. Elle tombe malade, la syphilis, etc. Et pendant tout le reste de sa vie, elle va essayer d'obtenir que son nom soit radié des listes des putains officiels. Et c'est pour ça qu'elle arrivera dans le gouvernement à faire passer une loi pour fermer les maisons closes et supprimer tous les documents afférents à ces maisons.
Sans doute une des lois les plus controversées de toute l'histoire de la République.
Ça,
alors,
je ne la juge pas.
Entre Madame Stenel, et Marthe Richard, vous nous parlez de la belle Shiva, de cette danseuse hindoue extraordinaire qui n'avait d'hindou que le nom du reste, car elle était en fait d'origine néerlandaise.
Oui, mais qui était une danseuse.
Matahari, oui.
Matahari, qui était une danseuse admirable. Tout le monde tombait en pamoison en la voyant danser ses danses hindoues. Et Matahari, sa carrière de danseuse s'amenuisant, va essayer de se lancer parce qu'on lui dit vous pourriez faire une belle espionne. Or, elle était absolument incapable d'espionner qui que ce soit. Elle travaillait un jour pour un tel, mais elle révélait des secrets aux autres. Et elle a fini au peloton d'exécution et son dernier corset. Alors, on lui prête ce mot dans son dernier corset au peloton d'exécution. On lui prête ce mot. C'est bien la première fois qu'on m'aura pour 12 balles.
Je ne sais pas si en même temps, elle était assez digne et elle est morte très courageusement,
absolument,
cette Matahari. Michel de Decker, 12 corsets qui ont changé l'histoire avec un grand H. C'est chez Pygmalion. Merci d'être venu nous en parler si bonnement.
Merci.
y a longtemps qu'elle ne porte plus de corset. Bonjour,
mais
Elena.
J'en ai eu un offert par ma grand-mère qui était très chaste pour mes 18 ans. C'était comme ça, une tradition familiale. Je dois dire qu'il était moins quoi, il me faisait pas aussi souffrir que ceux dont vous parlez à l'instant.
Alors vous avez caoutchouté déjà un peu.
Voilà. Oui. C'était pour être joli, mais c'était très chaste, hein, c'était pas du tout. Alors, sinon, en dehors de ça qui n'intéresse évidemment personne, on va s'intéresser à d'autres vendeurs de corsets, alors des corsets plus médicaux, ceux-là, puisqu'il s'agit des pharmaciens. Est-ce que c'est, par exemple, un commerçant comme un autre ou pas? Est-ce que c'est celui qui vous connaît le mieux, par exemple, Franck, parmi tous vos commerçants, le pharmacien?
Oui, très sympathique, mon pharmacien, en l'occurrence. Mais...
Eh bien, nous allons nous interroger sur son rôle, sur ses limites, et vous pouvez toujours vous poser vos questions au 3921, et c'est encore et toujours 34 centimes d'euros la minute, ou encore sur europe1.fr.
Mon pharmacien et mes pharmaciennes. J'ai oublié hier, figurez-vous, parce qu'on était quand même dans Oscar Wilde et il fallait absolument citer ce rendez-vous qui est important. C'est une exposition qui a lieu en ce moment au musée d'Orsay et ça va bientôt finir, hein, c'est jusqu'au 15 janvier seulement. Ça s'appelle « Beauté, morale et volupté dans l'Angleterre » d'Oscar Wilde. Donc une expo au musée d'Orsay où vous retrouverez Rossetti, William Morris, Whistler, enfin tous les grands peintres et puis toute cette esthétique particulière de cette Angleterre fin de siècle que nous avons essayé de faire vibrer hier, donc au musée d'Orsay jusqu'au 15 janvier prochain. Il fallait le dire absolument. Merci beaucoup Fatima.
Merci,
et
Franck.
À demain.
Oui, bon week-end surtout. Non.
Non, demain, il y a encore une émission et nous aurons Pierre Bellemare comme invité demain.
Je bug. En tout cas, bon après-midi à l'écoute d'Europe 1. Dans un instant, les experts avec Elena Mornard.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.